si on prétend arriver à leur faire oublier tout ce qui se passe dans leur vie pendant une heure et demie, il faut prendre des risques dans la proposition pour leur offrir quelque chose de différent qu'ils ne verront pas ailleurs que dans votre salle. Donc oui, il faut oser, ouais.
Lui, c'est James Hutt, le réalisateur de Brise de Nice et de Lucky Luke avec Jean Dujardin. Ce quelque chose de personnel dont il parle, c'est Hellphone, une comédie d'horreur pour adolescents avec Jean-Baptiste Monnier, décoriste, dans le rôle principal. Le pitch, un adolescent, Sid, découvre un portable doté d'une personnalité très possessive et qui va se mettre à tuer son entourage pour l'avoir rien qu'à lui. Sorti en 2007, Hellphone a été rejeté par le public à l'époque, avant de tomber peu à peu dans l'oubli. Hellphone, la comédie incomprise du réalisateur de Brise de Nice sur un portable tueur d'ados. Bonjour, je suis Jérôme Lachasse et aujourd'hui je vous parle d'un film ultra inventif et visionnaire sur la manière dont le téléphone portable peut littéralement tuer. Pour cette raison, Hellphone mérite d'être découvert. Tout commence en 2004, juste après la sortie de Brise de Nice, James Hutt est à la recherche de son nouveau projet.
Je ne me suis pas mis de pression non plus après Brise. J'avais compris que c'était, de toute façon, qu'on repartait toujours à zéro, qu'on ne pouvait pas calquer un modèle sur quoi que ce soit et que, de toute façon, Brise, c'était tellement un ovni qui était fait pour faire trois entrées que c'est miraculeux qu'il en ait fait autant. Enfin, voilà, c'est le contre-exemple parfait qui montre qu'il n'y a pas de règles dans le cinéma.
À cette époque, James Hutt travaille depuis de longues années sur une adaptation de la BD La Marque Jaune avec Hugh Jackman, Philip Seymour Hoffman et Gong Li comme stars attachés au projet. Finalement, le projet capote. Le réalisateur a alors une autre idée, assez sombre, avec Jean Dujardin en star.
Je reçois des propositions. C'est vrai que j'ai, en fait, juste après Brise, je suis revenu avec un polar, figure-toi, une espèce de polar psychologique sur la psychiatrie, qui se passait dans un institut psychiatrique avec un docteur face à son patient et Jean qui voulait jouer le docteur. Et on est revenu avec ce projet-là, qui était un petit projet. Et on nous a dit, non, mais vous êtes fous. Hein. Vous nous avez rapporté trop d'argent avec Brise. Revenez avec de la comédie ou revenez pas, les gars. Tu vois, j'avais pas carte blanche surtout. Hein.
James Hutt revient donc un peu contraint à la comédie, avec un concept entre horreur et humour.
C'est la fille de ma vie.
Donne-moi ton numéro si tu veux.
Le portable, ouais, bah en fait j'en ai pas.
Faut que j'y aille. Eh bah appelle-moi quand t'as ton nouveau
cell phone.
Le portable, il est vraiment spécial.
On va mourir.
Répondez pas, répondez surtout pas au téléphone.
Décrochez pas, les gars.
Allô?
Non, Charlotte.
Nous sommes alors au début des années 2000 et le téléphone portable est alors en pleine expansion. Tous les enfants du collège au lycée commencent à en avoir un. Impossible de passer à côté de cette révolution technologique.
C'est l'époque quand même où on a pris conscience que l'objet qui a le plus changé les comportements humains depuis le début de l'humanité, c'est le téléphone portable, quoi. Et l'iPhone n'était pas encore inventé quand on a eu l'idée, écrit et tourné le film. Et donc, on en était encore, on va dire, au début de l'emprise de cette machine incroyable. Et donc, c'est vrai que j'avais envie depuis longtemps de faire un film avec des ados, avec des jeunes, un teenage movie, comme on dit. J'avais envie depuis longtemps de faire un film sur cette période où on est au lycée sensible au regard des autres et où on commence à fumer, où on dit des choses qui ne sont pas les nôtres et où finalement ça peut agir sur notre personnalité d'une façon bien plus profonde que ce qu'on croit à ce moment-là. Donc c'est vrai que cette difficulté d'exister face au groupe, tout ce thème du paraître, c'était quelque chose que j'avais envie de traiter. Et puis c'est vrai, voilà, le danger du téléphone portable, il y a toute cette parabole dessus. Et avec Jean-Baptiste Andrea, qui est co-scénariste du film, on est arrivé à ce concept du Hellphone qui nous a beaucoup plu.
Pour incarner son héros, Sid, James Hutt fait appel à la star décoriste, Jean-Baptiste Monnier. Il le voit comme un Skywalker des temps modernes.
Nous, on avait vu toute la génération en fait, des acteurs français, suisses et belges entre 16 et 23 ans. Mais vraiment, tous les acteurs, quoi. On a fait un casting de fou avec Antoinette Boula. C'était formidable de scanner toute cette génération de jeunes. On avait trouvé pas mal d'acteurs formidables. Et en même temps, pour monter un film, évidemment, il faut quand même des noms. Et Bruno m'a parlé de Jean-Baptiste, et on s'est rencontrés, et c'est cette merveille de Jean-Baptiste, quoi, qui a pas bougé, qui est, enfin, il a pris 2,20 m hein, depuis qu'on s'est rencontrés, mais qui est toujours ce même être humain rare, on va dire, ouais. Il avait formidablement aussi envie de faire le film, parce que ça l'emmenait ailleurs aussi. Et il avait tout ce dont notre héros avait besoin. La grâce, le charme, l'innocence. C'était une grande chance de l'avoir.
Pourtant, le tournage ne se déroule pas tout à fait comme prévu avec le comédien.
Non seulement la voix de Jean-Baptiste a mué entre le tournage et la poste, mais Jean-Baptiste a pris 20 cm pendant le tournage, quoi. Et pendant le tournage et la poste, quoi.
Mais le principal défi du film, c'est de trouver le design du Hellphone. Comment rendre intemporel l'objet qui se démode le plus vite au monde ?
Moi, je voulais pas que le téléphone soit ringard 15 ans plus tard. Et ça, c'est comment faire, puisque au bout de 3 mois, un téléphone est déjà dépassé. Il y avait un travail comme ça que je cherchais à faire. Et il y avait un autre point qui était humaniser ce téléphone, donc lui donner finalement une forme de visage, une forme de personnage. On a aussi travaillé sur la voix, bien sûr, du Hellphone, on va en parler. Mais c'est vrai que quand j'ai demandé à Stéphane Levallois, qui est un artiste avec qui j'ai pas mal travaillé, de dessiner le Hellphone, je lui avais donné ces paramètres-là et je cherchais à avoir aussi finalement un look archaïque, on va dire, parce que l'intemporalité passe aussi par des choses qui ont traversé le temps, tu vois. Et comme il y a une technologie très avancée, futuriste à l'époque, on peut se marrer aujourd'hui, bien sûr, parce que tout ce qui est sur le Hellphone est sorti. En fait, l'iPhone a tout pris, sauf pour l'instant, les écouteurs, les iPhones, les AirPods ne sont pas fixés dans l'iPhone.
Avec Hellphone, James Hutt veut proposer aux adolescents un film mêlant horreur et humour, un peu comme Gremlins 2 et Evil Dead 2 dans les années 80.
En fait, c'est toujours cette association. Moi, j'aime beaucoup les extrêmes. C'est vrai que la peur et l'horreur se marient formidablement avec le rire, comme sur les comédies romantiques, de toute façon, où l'émotion, tout d'un coup, désamorce le rire, et le rire désamorce l'émotion. C'est la même chose au niveau de la peur. Et c'est vrai que la peur est encore plus visuelle, on va dire, que les autres types d'émotions. Voilà, on peut se marrer avec ça. Il y a beaucoup de références, de toute façon, de films qu'on regarde quand on est entre 12 et 25, tu vois, sur tous ces films d'horreur qui nous construisent aussi. Donc, obligatoirement, ça fait partie de notre culture et on a envie de jouer avec ça, ouais.
N'oublions pas que cette histoire s'adresse avant tout aux jeunes. James Hutt veille donc à ce que cette histoire, où des adolescents s'entretuent de manière violente, soit la moins sanguinolente possible.
En fait, le film était pensé pour les 12-14 ans, pour moi, en cible. Donc, j'ai fait vachement gaffe à l'équilibre, comme ça, de la présence, de la violence et du sang dans le film. Et faire attention à toujours privilégier la comédie. Et à toujours que ça soit d'abord drôle. Et c'est vrai que quand j'ai hésité, par exemple, parce que c'est ce que je trouve le plus bord-cadre, c'est quand Judith se tue. Elle se plante les couteaux dans le ventre et ça, évidemment, on le voit pas et les bruits sont marrants. Et la seule chose qu'on voit, c'est elle qui se plante le cure-dent dans le front. Quand elle s'effondre, il y a un plan rapide des couteaux plantés dans son bide et il n'y a pas un gramme de sang dans ce truc-là. Franchement, c'est hyper fou. Mais c'était parce que je me dis, tiens, il y a déjà assez de couteaux dans le bide. J'aurais dû mettre quand même un tout petit peu plus de sang, au moins un peu autour des couteaux, tu vois, pour la vraisemblance. Mais je préfère être moins que plus.
Malgré les précautions prises pour entourer les jeunes comédiens, une des actrices, Judith Chemla, alors au début de sa carrière, se blesse grièvement. Mais James Hutt a plus d'une corde à son arc. Chirurgien de formation, il la soigne directement sur le plateau.
Elle prend des couteaux dans le tiroir de la cuisine et puis elle se les plante dans son plastron. Donc ça, on a fait vachement gaffe, évidemment, à tout, mais elle a dérapé, en fait, et elle a planté un peu fort et elle a dérapé la main de son manche et elle s'est entaillée la main, effectivement, avec un des couteaux. Et c'est vrai que je l'ai recousu, ouais. Mais parce que moi, je suis dentiste de première vie, spécialisé en chirurgie, en implants. Voilà, j'étais à Cocha en un planteau. Voilà, je m'occupais du service de chir à la fac. Et donc, en général, oui, je recoue quand il y a une entaille, je vaccine quand il faut. Voilà, personne n'est jamais malade sur mes tournages.
Réalisateur inventif qui multiplie les angles de vue et les gags, l'une des plus évidentes, c'est Jean Dujardin qui apparaît quelques instants dans le film sous les traits d'un cousin ténébreux de Brice de Nice.
Et c'est vrai qu'à un moment clé du film, il nous fallait le héros local, si tu veux, un genre de John Wayne ou de Bruce Willis qui puisse être capable d'aller au fin fond du puits sans fond, qui était cet endroit où Jean-Baptiste avait, notre Cid avait essayé de jeter le téléphone pour s'en débarrasser et rapporter le téléphone à notre héros. Et c'est vrai que du coup Jean était la personne était la personne idéale, et ça nous a fait marrer de faire une version brune de Brice. C'était un clin d'œil.
Malgré le soin apporté à l'histoire et à la mise en scène, le film ne fonctionne pas à sa sortie en 2007. Une telle comédie, si différente de la production traditionnelle, ne peut exister que par le bouche à oreille.
Ben, le bouche-à-oreille n'a pas pris. Aussi, on ne te laisse pas forcément le prendre, tu vois, parce que c'est vrai que si tu ne fais pas assez d'entrées la première semaine, ben, et aujourd'hui, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te passe dans la petite salle, comme ce n'est plus des copies 35, on te passe dans la petite salle le soir même, et le lundi, tu ne tiens même pas une semaine.
Le titre en anglais, Elfone, a peut-être brouillé les pistes et détourné une partie du public.
Souvent, je me suis demandé, est-ce que Elfone était le bon titre ? Évidemment, ça correspond à tout ce que tu dis. Et puis, les titres, souvent, tu les cherches et tu les trouves jamais, ou alors ils s'imposent tout de suite. Bah, Elfone, tout d'un coup, ça a été évident pour nous et on n'a pas trouvé mieux. Mais je ne sais pas si on aurait peut-être dû, tu vois, avoir un titre qui soit plus accrocheur en France, en tout cas, qui permette de décoder simplement que c'est un film déjà et que c'est pas un produit ou que c'est pas quelque chose, tu vois.
Mais James Hutt ne regrette rien.
Faut pas se trahir non plus. Il faut pas essayer de plaire à tout prix. Tu vois, c'est là où quand je parlais de prendre des risques, c'est il faut être sincère et aller jusqu'au bout de son œuvre et qu'elle soit la plus réussie et la plus cohérente possible. En tout cas, au bout de cette proposition là.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Comedy Club, le podcast qui dévoile les coulisses des comédies françaises. Une série à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire. Pour aller plus loin, une série d'articles inédits est à retrouver sur le site de BFM TV. À bientôt !